Amis de Radio Silence, bonjour. Je suis Élise Mbok. Je vous parle depuis Yaoundé au Cameroun. Vous écoutez Flash sur le monde, que vous connaissez déjà pour... comment dirais-je? Pour justement parcourir le monde et vous rapporter l'information. Capital et essentiel. En ce moment, au Cameroun, vous savez, ce sont les élections présidentielles. Jour J, là, moins d'une quinzaine de jours, ce sera le 7 octobre. J'enregistre cette émission aujourd'hui, 27 septembre, je crois bien, 26 ou 27. Et il y a une forme, je ne vais pas dire d'accélération, mais il y a une grande agitation qui est arrivée parce que c'est la fin de la campagne et ceux qui pensaient qu'ils avaient course gagnée, notamment à l'opposition, est gêné parce que les choses ne semblent pas se passer comme ils avaient prévu. C'est qu'ils ont fait une mauvaise analyse de la situation politique et de la sociologie politique et de la réalité politique. Alors la situation politique ici, c'est, vous savez bien, le Cameroun du côté de l'ouest, à la fois le sud et le nord, et on parle de sécession. C'est très difficile de dire, là on ne sait pas, vous savez ce qui s'est passé en Libye, c'est la même chose ici. Est-ce que c'était des sécessionnistes, les gars de Benghazi? Non. Ils revendiquaient le pouvoir. Est-ce que c'était une insurrection? On ne peut pas le dire non plus parce que tout le monde n'était pas pour. Est-ce que c'est une crise? Là aussi, c'est pas certain parce que voilà, les autorités restent fidèles au gouvernement. C'est très compliqué cette situation-là, mais tout ce qu'on sait, c'est que c'est vraiment le modèle Benghazi, des gens qui sont derrière, qui ont comploté, qui ont prévu un printemps africain qui devait commencer par le Cameroun, qui devait, n'est-ce pas, exploser comme la Libye. Et avec ça, on s'orientait vers un pourrissement politique qui allait faire que le président serait automatiquement contesté et en difficulté et peut-être n'aurait même pas pu se représenter pour une autre candidature. La question, toujours sur la situation politique, la question de M. Paul Biya, c'est qu'il a fait 36 ans au pouvoir, ça ce n'est un secret pour personne, et qu'il y a eu parfois des changements de constitution afin que... Il puisse se représenter, ça ce n'est un secret pour personne, et qu'il y a comme un ras-le-bol parce que, comme partout ailleurs, les inégalités se sont appliquées. Donc les inégalités sont là, elles sont réelles comme en France, c'est la fracture sociale claire et nette. C'est un phénomène mondial. Vous savez, l'Afrique est toujours dans tout ce qu'il y a de pire, hein. Elle récupère pas si mondialement il y a des choses qui sont positives. Elle les prend pas et elle est souvent très 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 preneuse du négatif. Donc on a la question des inégalités qui rend les gens complètement fous et qui fait qu'ils sont prêts à se jeter au premier venu, au bonimenteur qui va bien causer, il va leur faire rêver, leur dire que demain ça sera mieux, ils vont raser gratis. Dans cette situation politique qui devait aboutir enfin, automatiquement à la disqualification de M. Paul Biya n'a pas eu lieu. Au contraire, des gens même qui étaient contre lui se disent, Dieu merci, heureusement qu'il est là pour assurer la stabilité, pour qu'un amateur ne soit pas à la tête de la question. Je veux dire, c'est comme quand Kadhafi s'en va, vous voyez un peu comment la Libye s'écroule. Donc là, M. Biya, contre toute attente, on essayait de monter un coup d'État contre lui. La chose s'est retournée et il devient, en quelque sorte, le dernier rempart, le sauveur du pays. C'est inouï. Donc le calcul des manipulateurs politiques est un mauvais calcul, qui ça arrive donc à cette situation qui, si... elle a permis quand même au Cameroun d'éviter le pire, politiquement parlant, en ce sens qu'il y a la paix, voilà, et la stabilité, même si là-bas ces deux régions souffrent. Si il y a ça, il y a quand même l'autre côté, c'est que du coup les élections sont entachées par une forme de contestation de la légitimité du président, qui a donc dévié comme ça de son axe. On n'est plus là dans le politique pur, on est là dans la manipulation politicienne. Et un candidat en particulier a récupéré cela en jouant sur, en surfant sur le ressentiment, sur la colère des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont au chômage, qui vivent mal. Vous voyez, la fracture sociale, ça frappe toujours les plus faibles. Parmi les plus faibles, il y a les femmes, il y a les jeunes. Et curieusement, les femmes sont, et c'est ça qui fait la différence, les femmes sont plus dynamiques quand même parce qu'elles essayent de trouver quelque chose à faire. On a été forcé de libéraliser sauvagement le commerce. Vous pouvez faire, vous commencer quand vous voulez votre petite activité. Il n'y a pas trop de tracasseries parce que la situation est compliquée. Donc on laisse un peu filer les choses. Et beaucoup d'hommes, voilà, sont désœuvrés. Ils font rien. Ils s'ennuient. Et pour eux, c'est la faute au président. Ça, c'est la situation politique très compliquée. Et ça fait qu'il y a vraiment un parti qui s'est défini comme étant le parti des jeunes et qui finit aujourd'hui, alors que la course est comme ça, tire à sa fin, et qu'ils pensaient qu'en disant tout simplement qu'ils étaient jeunes, parce qu'on leur a dit que, on leur a dit que l'Afrique était jeune, dont la population était majoritairement jeune, en faisant donc un calcul basique, on arrivait au fait que. Ils sont plus nombreux automatiquement et donc étant plus nombreux parce que l'Afrique est jeune, elle a beaucoup plus de jeunes, bon, ils vont gagner. Ça marche pas comme ça, les automatismes en politique, d'autant que les jeunes ont aussi choisi d'autres candidats. Il y a 8 candidats, 9, je sais plus, dans l'opposition. C'est vraiment la cacophonie. On ne sait pas pourquoi ils sont 9, ils sont seuls à le savoir. Et tous sont contre le président, ça c'est clair. Mais alors quand on leur demande de former une coalition, là, ils ne sont plus d'accord. Encore une impasse de l'analyse politique faite par des amateurs. Cet amateurisme va avoir pour conséquence que déjà, bon voilà, ils n'ont pas fait de primaire, ils se sont tous surestimés. Ils sont partis sur l'idée, ça c'est très très camerounais, ça fait partie de la mythologie camerounaise. Si vous n'êtes pas camerounais, vous ne pouvez pas comprendre. Tout le monde est présidentiable, tout le monde se pense président, directeur général, c'est toujours des gros titres ronflants. Alors les gens, ils vont à l'école avec cette idée qu'ils vont tous sortir directeur de quelque chose. Du coup, ils privilégient les filières longues au lieu de privilégier les filières pas courtes, mais les techniques. Je veux dire, il y a un décalage. Il y a un décalage entre les besoins du Cameroun, qui sont des besoins en ingénieurs, en public qualifié, en petit. Vous savez, tous ces boulots-là intermédiaires. Et la visée, la vision de chaque Camerounais qui ne se voit pas. Voilà, ingénieur, technicien, bâtisseur. Non, non, il se voit tout de suite un grand dirigeant. Il se voit. Voilà, les Camerounais ont cette faculté comme ça de se projeter dans des fonctions pour lesquelles ils n'ont même pas la capacité. Le tout n'est pas non plus aussi d'avoir les diplômes. Encore que quand on va voir ce qui se passe dans ces diplômes-là, on voit que ils sont délivrés un peu n'importe comment. Le niveau n'y est pas. Le niveau n'y est pas. On voit que c'est très combiné. Qu'il y a des gens, les concours sont combinés, sont truqués. La sortie est truquée. Le cursus, bon, il y a des choses qui sont très très contestables dans le déroulement des études, dans le déroulement du cursus ici. Et franchement, vous avez pléthore de diplômés. Et là, vous dites qu'il y a un souci, c'est quand vous voyez que ben, ils n'y arrivent pas. Comment ça se fait que vous avez toutes ces qualifications et vous n'y arrivez pas? Évidemment, tout le monde se défaut sur le pauvre président qui a bon dos. Les maires se défaut sur lui. Tous les administrateurs se défaut sur lui. Les acteurs du privé engagés dans des partenariats public-privé, c'est des fautes sur lui, c'est la faute au président, ça c'est aussi une mentalité africaine. Quand tout va bien, tout le monde bouffe, et quand plus rien ne va, personne n'est responsable, vous voyez un peu, mais on veut les postes. Et ça c'est une mentalité qui quittera. Je veux dire, l'Africain, le Camerounais ne se regarde pas lui-même pour voir ses propres défaillances dans l'échec totale de la société. Ça, c'est comme ça. Je veux dire, je suis obligé de faire un détour là par la France. Je suis heureuse aujourd'hui d'apprendre que Monsieur Colomb a jeté l'éponge. C'était écrit. Vous trahissez, et puis voilà, vous avez ce que vous avez, hein. Vous trahissez toute une tradition politique pour voilà, un arriviste comme ça. Je veux dire, c'est terrible. Bon, il s'en va, il va se reconcentrer à la mairie pour 2020 à Lyon. J'ai rien à dire. Mais il n'est jamais trop tard pour changer de trajectoire. Retour au bercail, bravo. Et l'autre nouvelle qui est quand même explosive, qu'on ne peut pas laisser passer parce que ça va nous servir de chute pour l'émission, c'est l'affaire Benalla. Enfin, le poteau rose est dévoilé. C'était l'amant et c'est l'amant du président. Enfin, c'était, puisque maintenant, le boulet est fini. Chômage à la maison, comme nous. C'était l'amant du président. Je veux dire, on a ici un candidat qui se réclame du macronisme. Photo et tout, vous voyez un peu. Hein, alors, si on dit maintenant qu'il est enfin, du même bord, voilà, orientation sexuelle, on va nous dire, oh là là, faut pas dire ça. Il y a un document qui est sorti qui avait une orientation, qu'il aurait signé un papier à Memphis pour un ordre, je ne sais pas quoi, qui serait apparenté à la franc-maçonnerie. Il faut pas dire ça. Il dément pas. Alors, si on nous rapporte ici quelqu'un qui serait l'équivalent, qui aurait des amants comme Benalla cachés quelque part, c'est terrible. C'est ça que c'est la politique aujourd'hui, c'est cela. Quelqu'un qui vient en présentant la jeunesse, en brandissant la jeunesse comme porte-étendard, et cette même jeunesse a créé ici au Cameroun un gap générationnel. Et ce gap générationnel, il s'alimente à deux choses. D'abord, ça fait peur de voir les jeunes qui se lèvent comme ça, qui disent qu'ils vont vous diriger, vous les parents. Ouh là là, épouvantail, tout le monde a fui. Et ce qui fait le plus peur, c'est que nous, nous sommes parents, nous connaissons nos enfants, nous savons en tant que parents le potentiel d'ingratitude des enfants, nous savons en tant que parents combien ces enfants sont aujourd'hui aliénés. Et comment ils sont individualistes? Donc, toute cette hypocrisie qui consiste à aimer tellement le candidat là-bas et à ne même pas se soucier de son père, de sa mère, de son frère et à ne même pas participer aux affaires familiales. Quand vous disqualifiez la famille, parce que la jeunesse aujourd'hui, c'est ça, elle a disqualifié la famille, elle fait comme ces homosexuels-là, ils n'ont pas de père, ils n'ont pas de mère, ils n'ont pas de sœur, ils n'ont pas de frère, ils sont tout seuls au monde et puis ils vont aimer, s'aimer entre eux là-bas avec un candidat. Vous ne pouvez pas aimer votre famille, vous ne pouvez pas aimer la patrie. C'est ça le fondement de l'homosexualité. C'est quelque chose de très profondément démobilisateur et désidentifiant. Donc ces jeunes-là n'ont pas. Ils ont commencé hier à dire que dans tous les cas, voilà, leur candidat va passer quoi qu'il arrive. S'il ne passe pas, en gros, ils vont tout casser. Parce qu'il faut chasser le président Biya. J'ai vu déjà des affiches décollées, j'ai vu des banderoles coupées. Le hooliganisme citoyen, comme j'appelle, est en marche. Et c'est un désastre parce que l'Afrique, on a voulu qu'elle accède à la démocratie. Et si elle accède à la démocratie, à la façon du Rwanda, en coupant, en étant prêt à aller prendre les machettes pour aller régler les choses à la rue, la démocratie, c'est pas la rue. Il y a les urnes pour débattre de cela. Tu es en train de perdre, tu joues pas à ce jeu-là. Nous sommes là. Alors les parents qui se lèvent, c'est aussi des gens qui sont en fonction, hein, pourquoi pas? Les ministres, les sénateurs, puisque c'est à la rue maintenant que ça se traite. Ils vont marcher aujourd'hui de façon, ce jeudi 27 septembre, de façon symbolique aussi, pour montrer que la rue n'appartient pas à une horde de hooligans qui se s'arrogent comme ça tout seul le droit de s'autoproclamer victorieux avant même la fin des élections, avant même qu'on ait voté. Donc vous comprenez pourquoi, quand j'ai commencé par le début de l'insurrection, pardon, qui a dans le nord-ouest, qui a été plus ou moins montée, vous arrivez au montage aujourd'hui qui se dévoile, à l'opération qui se dévoile, qui est que, puisque manifestement le président, compte tenu du fait qu'il y a cette guerre, est devenu alors vraiment celui sur qui il faut s'appuyer fortement, et il a sorti le slogan pour cela, la force de l'expérience, puisqu'il semblerait, enfin, on voit déjà qu'ils auront du mal à faire en sorte que individuellement quelqu'un émerge parmi les neuf parce qu'ils se partagent les voix entre eux, les neuf. Ce serait difficile compte tenu de cela. Et puisqu'il y a eu le gap générationnel qui disqualifie toute une partie de la population, ça fait que, bah, pour toutes ces trois raisons-là, le président Biya, contre toute attente, il est redevenu l'homme fort. Il émerge comme celui qui va et qui rassure. Il émerge comme celui qui est sage. Il émerge comme celui qui va unifier. Il émerge comme celui avec qui, malgré tout ce qui s'est passé et malgré le bilan plus ou moins contrasté, on préfère quand même continuer avec eux. Et quand on dit on, ce sont des gens qui votent. Voilà. Parce que ces jeunes aujourd'hui braillent beaucoup. Qu'est-ce qu'ils ont oublié dans leur individualisme qui fait qu'ils sont en train de parler? Il y a toute une polémique hein, à l'ÉCAM où on dit que le téléphone portable, est-ce que j'irai voter? J'aurai mon téléphone portable ou pas? Est-ce que je pourrais faire des photos? Non, mais vraiment. Vous voyez un peu le niveau de considération que les jeunes ont ici, aliénés à des objets comme le téléphone portable. Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à la nation? Que des petites préoccupations, des plats de lentilles. Bon, c'est vrai, les lentilles, ça donne du fer, ok, ça a permis à l'autre d'acheter le droit d'aînesse, c'est un peu ça, mais vous voyez, c'est symbolique, ces choses-là. Nous sommes là, avec ça, on gère un peu comme ça, ce n'est même plus la cacophonie, l'opposition est plus ou moins prise de vitesse, parce que justement, selon l'expérience, la rattrape. Elle n'a pas vu que les 2 dernières semaines, c'est la fin des haricots. Hein. Et c'est là qu'elle voulait accélérer. Elle peut plus. Elle peut plus parce qu'en tenu de ce que je vous ai dit, parce que c'est à ce moment que le président, lui, il émerge à la campagne, dans cette position de force là où je vous dis, stabilisateur, homme de paix, unificateur, sérénité, celui qui va empêcher donc à la fois que l'étranger entre et ou que la fracture sociale déborde le niveau économique pour atteindre le niveau générationnel, c'est qu'il y a une catastrophe pour l'Afrique. Vraiment, ça mine les fondements de l'Afrique et il devient celui qui, contre toute attente, alors qu'on a reproché qu'il avait un gouvernement qui ne faisait que favoriser des égoïstes, et il émerge comme celui qui va lutter contre les égoïsmes, qui va lutter contre les individualismes. Et Dieu seul sait qu'il n'y a pas plus individualiste qu'un jeune aujourd'hui. Il n'y a pas plus intéressé qu'un jeune aujourd'hui. Il n'y a pas plus. Comment je vais dire enfin, laissons tomber des gens qui sont pris par les effets de mode et qui sont pris par toute cette homosexualité. Alors maintenant, l'homosexualité, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on va leur dire, il est. Non, 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 lui, il est Macron, mais c'est pas le Macron qui est homosexuel, c'est le Macron qui est jeune, nous, on prend la jeunesse. Bon, je ne vais pas ajouter à tout ce que j'ai déjà dit. Ça, c'est pour vous dire hein, l'ambiance sur le terrain. L'opposition, parce qu'ils ont commencé, continue la fuite en avant. Chaque candidat continue son programme tel qu'il l'avait dessiné. Il continue à faire les tournées du pays. Là, maintenant, je crois qu'on lutte hein, pour les dernières voix, pour faire un score honorable, parce que il y a les 15 millions qui ont été avancés. Et si vous ne faites pas les 5%, on ne va pas vous les rembourser. Donc, maintenant, je crois qu'ils font tout pour avoir au moins 5%. Pour ça, et sinon, après, au-delà de tout cela, la messe est dite, mais d'ici là, vigilance quand même. Le président commence sa campagne dimanche prochain, et dimanche, là, dimanche, il commence par le nord. Et d'ici là, vigilance, vigilance, parce que rien ne dit qu'il y a un plan qui est ourdi quelque part et qu'à la dernière minute, peut-être même qu'avant les élections, il risque d'avoir quelque chose. On ne sait pas. On est dans les spectatives, on attend ce que l'instrumentalisation du candidat des jeunes, avec leur projet qu'on ne comprend plus très bien, si on va revenir à la barbarie africaine, ok, c'est pas. Et c'est facile pour les manipulateurs de l'ombre d'actionner cette fibre-là et après de venir dire, ouais, vous avez vu, les Africains, ils sont pas mieux pour la démocratie, vous avez vu, ils sont en train de s'entretuer, mais bon, nous sommes les Noirs, on est habitués à voir cela. Le Noir se coucher plus bas que terre, le noir obéir à une instance supérieure, c'est pas laquelle, qui n'est surtout pas Dieu, et le noir très aliéné, très avilié encore, qui sort vraiment pas de son esclavage devenu mental, qui le handicape, qui le bride et qui le neutralise et le maintient dans le fond et dans le bas. Bon, c'était Flash sur le monde. Je vous dis à bientôt sur Radio Silence, la radio devenue Radio Monde.